Vous écoutez On lit pour vous.
Le passé et l'avenir, c'est maintenant. Un texte d'Ariane Kroll paru le 19 juillet 2026 dans La Presse. Nous avons rencontré Natacha Canapé-Fontaine au début de juillet 2026 à Montréal, alors que rien ne laissait présager l'urgence qui allait bientôt secouer sa communauté de Pessamit, sur la côte nord. Je me disais justement que j'avais eu un beau 10 jours à 2 semaines où je n'avais pas grand-chose, et puis ça, c'est arrivé, s'est esclaffé l'artiste Inou lorsque nous lui avons reparlé cette semaine. Ça, c'est le méga-projet d'entente entre Québec, Hydro-Québec et le Conseil des Inou de Pessamit, sur lequel les membres de la communauté ont été appelés à voter à 10 jours de préavis. Au minimum, le référendum doit être reporté, a réclamé Mme Canapé-Fontaine dans une lettre ouverte qui a beaucoup circulé. Depuis que le non l'a emporté à 63% au référendum, il y a une semaine, des Pessiamoulnout, Inou de Pessamit, lui disent qu'ils se sentent très fiers de connaître notre histoire, de tenir la parole de nos grands-pères qui ont tenté de nous transmettre ce qu'ils ont vécu à la construction de la Manique 5. En inondant une partie du territoire, dont un important chemin de portage, les barrages ont causé une énorme interruption de la vie nomade et de la vie de subsistance, rappelle l'autrice, qui a plaidé pour que les négociations se poursuivent avec Québec et Hydro-Québec en vue d'une meilleure entente. Dans ses propres textes, comme dans l'essai « 21 aspects méconnus de la loi sur les Indiens », dont elle a assuré la traduction, l'histoire n'est jamais une affaire classée, mais un récit en marche. Ainsi, son spectacle de poésie et musique en tournée au Québec s'intitule « Nican, dans 100 ans ». Nican, ça veut dire « devant », mais aussi « dans l'avenir », souligne la trentenaire rencontrée à la terrasse privée de la tribu, l'agence qui la représente. « J'aimerais vivre jusque dans 50 ans, » dit-elle, « pour voir le monde dans lequel on sera, et en même temps, j'ai tellement peur d'être l'une des dernières personnes à connaître quelques mots en Inou Emoun ou quelques contes traditionnels. Je n'ai pas envie qu'on soit juste une poignée de gens, j'aimerais qu'on soit tout un peuple. » La loi sur les Indiens a 150 ans cette année. Son histoire est une succession de dépossessions et d'interdits. Former des organisations politiques, amasser des fonds pour embaucher des conseillers juridiques, voter, organiser des cérémonies culturelles, sortir de la réserve sans permission, etc., rappelle l'essai 21 aspects méconnus de la loi sur les Indiens, écrit par Bob Joseph, un autochtone de la côte ouest. Le système des pensionnats, conçu pour tuer l'Indien dans l'enfant, aurait causé à lui seul la perte de plus de 6 000 jeunes, morts ou portés disparus, signale l'ouvrage paru en français au printemps 2026. Madame Canapé-Fontaine témoigne de ce qu'elle a vécu en traduisant ce livre. « J'ai traversé plein de moments de colère, mais aussi de deuil, parce que si ça n'avait pas existé, tellement de gens de ma famille ne seraient pas morts. Car à la liste des victimes, il faut aussi ajouter les survivants des pensionnats qui ont perdu la vie prématurément, comme l'une de ses grands-mères et beaucoup d'enfants de survivants marqués par le traumatisme intergénérationnel. Ils ont vraiment tout essayé pour faire en sorte qu'on n'existe pas et que moi, je ne sois pas là. C'est quand même tout un miracle qu'on soit en vie, s'exclame-t-elle. Comment envisager une réconciliation après de telles horreurs? Florent Volant le dit souvent, et moi aussi, on a besoin de se réconcilier avec nous-mêmes avant d'être en relation avec un autre peuple. On a besoin de se reconstruire pour être dans une relation d'égal à égal. À ce propos, elle aimerait que le financement gouvernemental accordé à des événements et spectacles autochtones ne soit plus aussi concentré autour de quelques dates clés, comme le 21 juin, Journée nationale des peuples autochtones, et le 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, et qu'il y ait davantage de ressources pour faciliter l'accès au territoire. Les jeunes, les enfants, il y en a énormément qui veulent retourner dans la forêt et apprendre la culture traditionnelle, parce qu'ils savent que c'est dans le bois, en apprenant notre façon de vivre, que la reconnexion avec la culture peut se faire complètement. Même sur les sujets les plus graves, le propos de l'artiste Innu n'est jamais lourd. Son rire contagieux finit toujours par se frayer un chemin. « Avant, dit-elle, je me retenais beaucoup, mais avec le temps, on dirait que je ne peux plus. J'ai l'impression qu'inconsciemment, je veux que les gens comprennent mon monde. » Le regretté anthropologue Serge Bouchard n'a pas qualifié son peuple de « rieur » pour rien. « Si on ne se moque pas de toi, tu devrais te sentir en danger », illustre-t-elle l'œil espiègle. Le rire sous toutes ses formes, fou, ironique, partagé, est d'ailleurs omniprésent dans son premier roman « Nahuetakuan ». Ce sont d'autres codes sociaux que je ne vois jamais dans les livres, même chez d'autres auteurs autochtones. Je me suis dit que si ça me manquait à moi, j'allais faire l'effort de tenter de transposer ça dans un roman. Le rire, souligne-t-elle, est aussi une façon de communiquer, de se connecter à l'autre et d'échanger avec lui. Ça devient un langage qu'il faut que tout le monde apprenne en même temps, fait-elle valoir. Voilà une invitation au dialogue qu'on serait bien sot de refuser. C'était « Le passé et l'avenir, c'est maintenant », un texte d'Ariane Kroll paru le 19 juillet 2026 dans la presse.
Le château Johann Beetz, B-E-E-T-Z, demeure patrimoniale, est en danger. Un texte de Caroline Monpetit paru le 15 août 2026 dans Le Devoir. Le château Johann Beetz, cette majestueuse demeure patrimoniale de la Basse-Côte-Nord, est en danger et le maire et les citoyens du petit village d'une centaine d'âmes craignent pour sa préservation. Des photos montrent un trou dans son toit, ce qui inquiète les résidents du village pour cet hiver. Dans une lettre datée du 21 juillet 2026, l'organisme Action Patrimoine demande au ministère de la Culture et des Communications d'intervenir pour éviter le pire. Nous vous écrivons concernant un bâtiment classé dans la région de la Côte-Nord, la maison Johann Beetz à B. Johann Beetz, qui a une toiture visiblement en mauvais état. D'ailleurs, un trou par lequel l'eau pourrait s'infiltrer est visible sur plusieurs photos aériennes récemment rendues publiques, écrit Action Patrimoine. Le château Johann Beetz a été construit en 1898 par Johann Beetz, un aristocrate belge qui s'était réfugié au Québec à la suite d'un chagrin d'amour. En 1997, la poète et cinéaste Joséphine Bacon a consacré un film à ce personnage historique qui soignait gratuitement la communauté grâce à sa formation de médecin et qui a protégé le village de la grippe espagnole en le mettant en quarantaine. Il est aussi connu pour avoir développé l'élevage du renard argenté. Il a tant fait pour beaucoup de personnes sur la Basse-Côte-Nord qu'il mérite qu'on honore sa mémoire en conservant son château, a dit Madame Bacon, au sujet de la détérioration de l'édifice. Son film, disponible sur le site de l'Office national du film, ONF, raconte la façon dont Johann Beetz a bâti cette maison à l'image du château en Belgique où il avait grandi, sans les tourelles, toutefois, et avec du bois plutôt que de la pierre. À l'intérieur de la maison, qui est aussi classée au patrimoine, il a signé lui-même l'ornementation de certaines boiseries. Le bâtiment a été classé au patrimoine en 1979. C'est une maison de type Second Empire, dit le maire de B. Johann Beetz, Sébastien Lécuyer. Après le départ de Johann Beetz, de sa femme et de leurs 11 enfants pour Vaudreuil en 1922, le château a été inoccupé durant 4 ans. Il a ensuite été racheté par une famille qui s'en servait pour accueillir principalement des Américains en voyage de pêche ou de chasse. Selon le maire Sébastien Lécuyer, les propriétaires successifs se sont acquittés de l'entretien de la demeure en respectant les conditions patrimoniales et en entretenant de bons rapports avec la communauté jusqu'en 2018. Depuis 2018, c'est la pourvoirie B. Johan Beats qui en est propriétaire et plusieurs autres entreprises, dont Caraïbes Nordiques et Mythique Nature, y sont associées avec des antennes au Japon et au Cambodge. Selon le maire Sébastien Lécuyer, les propriétaires successifs se sont acquittés de l'entretien de la demeure en respectant les conditions patrimoniales et en entretenant de bons rapports avec la communauté jusqu'en 2018. Depuis 2018, c'est la pourvoirie B. Johan Beats qui en est propriétaire et plusieurs autres entreprises, dont Caraïbes Nordiques et Mythique Nature, y sont associées avec des antennes au Japon et au Cambodge, selon le registre d'entreprises consulté par le journaliste Manuel Paradis du journal Le Nord Côtier. Une visite du ministère. Il y a 2 ans, à la suite d'une plainte des citoyens au sujet de l'état du château et notamment de la toiture, le ministère de la Culture et des Communications a fait une visite des lieux. Mais aucun travail de réfection n'y a donné suite, note le maire Lécuyer. Pourtant, le ministère a des plans de subvention pour accompagner les propriétaires, relève-t-il. Dans la foulée du tollé qu'a soulevé la publication des photos du toit percé du château sur les réseaux sociaux, la pourvoirie de B. Johan Beats a diffusé un communiqué dans lequel elle assure de son objectif de redonner vie à ce lieu d'exception, de préserver son cachet et son unicité et de le rendre accessible à la population ainsi qu'aux visiteurs dans le respect de son histoire et de son statut patrimonial. La pourvoirie se plaint cependant du fait que les interventions nécessaires doivent être réalisées dans un cadre exigeant. Comme pour tout bâtiment classé patrimonial, nous devons respecter des normes strictes, obtenir les autorisations nécessaires et les travaux doivent être exécutés avec des matériaux et méthodes conformes aux exigences patrimoniales. La pourvoirie mentionne des démarches administratives complexes, des exigences réglementaires élevées, l'absence de programmes de financement adaptés et des coûts de restauration considérablement majorés par les normes applicables aux bâtiments patrimoniaux. Du côté d'Action Patrimoine, on rappelle que toute personne qui achète un bâtiment classé au patrimoine est responsable d'en assumer l'entretien dans les règles. Quand on achète un bâtiment classé, c'est sûr qu'il y a une responsabilité légale et morale de préserver le bâtiment. On ne peut pas prétendre l'ignorer après coup, dit Andréane Jalbert-Laramé, vice-présidente du conseil d'administration d'Action Patrimoine. Elle indique aussi que le ministère offre des programmes d'accompagnement qui peuvent couvrir jusqu'à 40 % des coûts d'entretien. Beats, lui, il a été proactif quand il a voulu sauver son village. Il a mis sa population en quarantaine pour le protéger. Alors que nous, aujourd'hui, collectivement, on dirait qu'on a un peu perdu ce réflexe d'être proactif, ajoute-t-elle. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec n'a pas donné suite aux demandes d'entrevue du Devoir au sujet du château Johan Beats. C'était le château Johan Beats, demeure patrimoniale, est en danger. Un texte de Caroline Montpetit paru le 15 août 2026 dans Le Devoir.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 31 août. En 1888, premier meurtre attribué à Jack l'Éventreur. Le corps sans vie de Mary Ann Nichols est découvert dans le quartier londonien de Whitechapel, marquant ce qui est généralement considéré comme le premier meurtre attribué au tueur en série connu sous le nom de Jack l'Éventreur. 4 autres meurtres similaires suivront dans les mois suivants, semant la terreur dans l'East End londonien. L'identité du meurtrier n'a jamais été formellement établie, alimentant depuis plus d'un siècle un mystère persistant. Cette affaire reste l'une des plus célèbres de l'histoire criminelle britannique. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 31 août.
Les Canadiens sont moins pessimistes quant à l'économie. Un texte de Félix Côté, paru le 27 juillet 2026 dans InfoBref. Selon un sondage Nanos, réalisé pour l'agence Bloomberg, la proportion de Canadiens qui croient que l'économie se détériorera au cours des 6 prochains mois est passé de 54 % en avril à 34 % en juillet, la plus basse proportion depuis novembre 2024. Par ailleurs, les plus récentes données de Statistique Canada montrent que le volume des ventes au détail a augmenté de 0,3 % en mai. C'est une première augmentation en 3 mois. Le regain de confiance pourrait donc s'être amorcé dès le printemps. C'était « Les Canadiens sont moins pessimistes quant à l'économie », un texte de Félix Côté, paru le 27 juillet 2026 dans InfoBref.
Réglementer la location de courte durée permettrait de freiner la hausse des loyers, un texte de Sarah Collardet paru le 12 août 2026 dans Le Devoir. Réglementer la location de courte durée d'une résidence principale de type Airbnb permet de limiter l'augmentation des loyers résidentiels au Canada. C'est ce que constate une récente étude menée par des chercheurs de l'Université McGill. On a trouvé que les municipalités qui ont mis en place une réglementation sur les locations ont vu leurs loyers être moins élevés comparativement au scénario où elles n'auraient pas mis en place de réglementation, explique Chloé Saint-Hilaire, membre du groupe de recherche en politique et gouvernance urbaine de McGill, dirigé par David Washmout, avec qui elle a co-signé la recherche. Ça confirme aussi, inversement, que les Airbnb créent une pression sur les loyers au Canada, ajoute celle qui est également chercheuse postdoctorale à l'Université de Waterloo. L'étude a pris en compte des données s'étalant sur une période de 6 ans, soit entre 2017 et 2022. Les chercheurs ont analysé 798 quartiers situés au Québec, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Parmi ceux-ci, 309 se trouvaient dans des municipalités ayant adopté au plus tard le 1er janvier 2023 des exigences relatives à la location de courte durée d'une résidence principale. Effet notable. Les chercheurs constatent que les effets des réglementations se font sentir dès la première année après leur entrée en vigueur et qu'ils s'accentuent au fil du temps. En moyenne, dans les 309 quartiers concernés, les loyers étaient moins élevés de 24 $ par mois au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur des restrictions par rapport à ce qu'ils auraient été en l'absence de réglementation. Cela représente une différence de 1,7 %. Au total, les auteurs estiment que les restrictions sur les locations de courte durée d'une résidence principale ont permis aux locataires canadiens d'économiser 192,4 millions de dollars par mois en loyer en 2023. Les auteurs expliquent notamment cet effet par le mécanisme de l'offre et de la demande. Les restrictions entraînent le retour d'une partie des logements sur le marché locatif traditionnel, ce qui augmente l'offre disponible pour les locataires. Comme la pression sur le marché diminue, les loyers continuent malgré tout d'augmenter, mais moins rapidement qu'en l'absence de restrictions. L'étude révèle également des effets dans les municipalités voisines, même lorsque celles-ci n'ont pas de réglementation en place. Par exemple, une initiative qui a lieu à Montréal peut aussi influencer le marché locatif de Longueuil, explique la chercheuse. L'effet est toutefois moins important que dans les quartiers directement soumis à une réglementation. De plus en plus de réglementations. Dans les dernières années, les municipalités canadiennes ont été de plus en plus nombreuses à imposer des restrictions sur les locations de courte durée, en plus des mesures prises par les provinces. À Montréal, par exemple, depuis l'été 2025, la location à court terme d'une résidence principale est autorisée seulement entre le 10 juin et le 10 septembre. Les personnes qui souhaitent le faire doivent également obtenir un permis d'exploitation. Même s'il y a beaucoup d'initiatives, la location à court terme continue d'exercer de la pression sur les loyers à travers le Canada, affirme toutefois Mme Saint-Hilaire. La chercheuse estime que chaque municipalité devrait mettre en place un mode de régulation des Airbnb, adapté à sa réalité et à ses besoins. C'était « Réglementer la location de courte durée permettrait de freiner la hausse des loyers », un texte de Sarah Collardet, paru le 12 août 2026 dans Le Devoir.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 1er septembre. En 1939, invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie envahit la Pologne, un acte d'agression qui déclenche officiellement la Seconde Guerre mondiale. Le Royaume-Uni et la France, alliés de la Pologne, déclareront la guerre à l'Allemagne deux jours plus tard. Cette invasion s'accompagne de bombardements massifs et de l'usage de la tactique de la guerre éclair, Blitzkrieg. Ce conflit deviendra le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, faisant des dizaines de millions de victimes. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 1er septembre.
Un aliment riche en bons gras pour le cerveau. Un texte de l'équipe Salut Bonjour, paru le 13 juillet 2026, dans Coup de pouce. Prendre soin de son cerveau ne passe pas seulement par les mots croisés ou les jeux de mémoire. Dans l'assiette aussi, certains aliments peuvent faire une réelle différence au fil des ans. Parmi eux, l'un se démarque particulièrement au point d'être recommandé par de nombreux spécialistes de la santé cérébrale. Un petit aliment au grand bienfait. S'il n'existe évidemment aucun aliment miracle capable de prévenir à lui seul le déclin cognitif, plusieurs neurologues et chercheurs s'entendent pour dire que certains aliments peuvent contribuer à maintenir le cerveau en santé lorsqu'ils font partie d'une alimentation équilibrée. Parmi eux, les noix figurent presque toujours en tête de liste. Pourquoi les noix sont-elles si bonnes pour le cerveau? Les noix renferment une combinaison impressionnante de nutriments bénéfiques pour le cerveau. Elles sont riches en acides gras oméga-3 d'origine végétale, en vitamine E, en polyphénols, en magnésium et en antioxydants. Ensemble, ces composés contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif et réduire l'inflammation, deux phénomènes associés au vieillissement du cerveau. Ce que disent les études. Plusieurs recherches suggèrent qu'une consommation régulière de noix est associée à de meilleures performances cognitives avec l'âge. Par exemple, des analyses issues de grandes études d'observation ont montré que les personnes qui consomment fréquemment des noix présentent généralement de meilleurs résultats aux tests de mémoire et de fonction cognitive que celles qui en mangent rarement. Des essais cliniques ont également observé que l'ajout quotidien de noix à une alimentation équilibrée pouvait contribuer à améliorer certains aspects de la cognition, notamment chez les personnes âgées présentant un risque cardiovasculaire. Bien que les chercheurs rappellent que les noix ne constituent pas un traitement contre les maladies neurodégénératives, elles représentent néanmoins un excellent choix alimentaire pour favoriser une bonne santé cérébrale. Combien faut-il en manger? Bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire d'en consommer de grandes quantités. La plupart des experts recommandent environ 30 grammes de noix par jour, soit une petite poignée. Vous pouvez les déguster comme collation, les ajouter à un yogourt, à une salade, à un gruau, ou encore les intégrer à vos recettes préférées. D'autres habitudes qui protègent le cerveau. L'alimentation n'est qu'une pièce du casse-tête. Les neurologues rappellent également que les meilleures stratégies pour préserver les fonctions cognitives consistent à pratiquer une activité physique régulièrement, dormir suffisamment, contrôler la tension artérielle, le cholestérol et la glycémie, éviter le tabagisme, entretenir une vie sociale active, stimuler régulièrement son cerveau par la lecture, les apprentissages ou les jeux de réflexion. Au final, aucune noix ne remplacera un mode de vie sain. En revanche, prendre l'habitude d'en consommer quotidiennement est une façon simple, délicieuse et appuyée par la science de prendre soin de son cerveau à long terme. C'était un aliment riche en bons gras pour le cerveau, un texte de l'équipe Salut Bonjour, paru le 13 juillet 2026 dans Coup de pouce.